Chapitre 6. Marius Pontmercy. Cela fait maintenant 8 ans que Jean Valjean et Cosette sont arrivés au couvent des Bernardines. La Masure Gorbeau a maintenant de nouveaux locataires. Il s'agit des Jondrette, une famille misérable composée du père, de la mère, des deux filles et du fils, Gavroche, qui a cependant choisi de vivre dans la rue. Depuis quelques jours, les Jondrette ont un nouveau voisin, un étudiant très pauvre nommé Marius. Mais faisons mieux connaissance avec ce jeune homme. Orphelin de mère, Marius est élevé par M. Gillenormand, son grand-père, qui l'adore, mais ne le lui montre jamais et est même très dur avec lui. M. Gillenormand est un fervent royaliste qui ne supporte ni l'Empire ni la Révolution. Hélas, sa fille avait épousé un colonel de l'Empire. Lorsque sa fille meurt, M. Gillenormand menace de déshériter Marius si ce dernier ne lui est pas confié. Le colonel Pontmercy, le père de Marius, doit donc renoncer à élever son fils et promettre à son beau-père de ne jamais essayer de revoir son enfant. Georges Pontmercy vit à Vernon, une petite ville de l'Eure. Malgré sa promesse, il vient à Paris en secret tous les 2 mois et il se rend dans l'église Saint-Sulpice pour voir son fils assister à la messe. En grandissant, Marius devient un jeune homme généreux, fier et très digne. En 1827, il fête ses 17 ans. Un soir de cette année-là, son grand-père s'approche de lui, une lettre à la main.
« Marius, dit-il, tu partiras demain pour Vernon.
Pourquoi ?»
demande Marius. « Pour voir ton père. Il est malade et il te demande. »
Le lendemain, lorsque Marius arrive à Vernon, il est déjà trop tard. Son père est mort. La servante lui remet une lettre que Marius lit à voix haute.
« Pour mon fils. L'empereur m'a fait baron sur le champ de bataille de Waterloo. Puisque la Restauration me conteste ce titre que j'ai payé de mon sang, mon fils le prendra et le portera. À cette même bataille de Waterloo, un sergent m'a sauvé la vie. Cet homme s'appelle Thénardier. Si mon fils le rencontre, il fera à Thénardier tout le bien qu'il pourra. »
Marius n'est pas touché par la mort de ce père qu'il n'a pas connu. Par respect, il conserve cependant la lettre et retourne à Paris. Quelques semaines plus tard, alors qu'il est en train de prier dans l'église Saint-Sulpice, un vieil homme, nommé M. Mabeuf, s'approche de lui et dit
« Monsieur, c'est ma place. J'aime cette place. C'est ici que j'ai vu, pendant 10 ans, la plus belle des preuves d'amour d'un père pour son fils. Cet homme venait voir son fils ici car il ne pouvait pas le voir autrement. En effet, son beau-père menaçait de déshériter l'enfant si le père entrait en contact avec lui. L'enfant ne s'est jamais douté que son père venait le voir. Le malheureux se mettait là, caché derrière ce pilier. Il regardait son fils et il pleurait. Il s'appelait quelque chose comme Pontmarie ou Montpercy.
Pontmercy,
dit Marius très pâle.
Oui. « C'est cela, Pontmercy, vous le connaissiez ?»«
Monsieur,
dit Marius,
c'était mon père. »
Marius comprend alors combien son père l'a aimé. Il se rend à la bibliothèque et commence à lire toutes les histoires de la République et de l'Empire. La première fois qu'il rencontre le nom de son père dans les mémoires de la Grande Armée, il en a la fièvre toute une semaine. Après de nombreuses lectures, il comprend que son père était un homme rare, sublime et courageux. Un matin, M. Gillenormand fouille dans les affaires de son petit-fils et trouve, dans une petite boîte noire, la lettre écrite par le colonel Pontmercy, ainsi que des cartes de visite imprimées au nom de Baron Marius Pontmercy. Lorsque Marius arrive dans le salon, M. Gillenormand lui dit d'un ton ironique.
« Alors, Marius, tu es baron maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire ?»«
Cela veut dire que je suis le fils de mon père, »
répond Marius.
« Ton père, c'est moi !»
lui dit alors durement M. Gillenormand.
« Mon père, »
reprend Marius d'un ton sévère,
« était un homme humble et héroïque, qui a glorieusement servi la République et la France, qui est mort dans l'oubli et l'abandon, et qui n'a eu qu'un tort, c'est de trop aimer deux ingrats, son pays et moi. »
M. Gillenormand est furieux. Il regarde son petit-fils avec mépris et lui dit
« Un baron comme toi et un bourgeois comme moi ne peuvent pas rester sous le même toit. Va-t'en !»
Marius quitte alors la maison de son grand-père. Il a 30 francs en poche, sa montre et un sac contenant quelques vêtements. Il monte dans un fiacre et se dirige vers le Quartier Latin, où il trouve finalement refuge dans un hôtel grâce à Courfeyrac, un étudiant rencontré par hasard au Café Musain. En quelques jours, Marius et Courfeyrac deviennent amis. Ce dernier le présente aux membres des Amis de l'ABC, une société secrète comptant de nombreux étudiants qui s'intéressent aux questions politiques et sociales. Il y a Enjolras, un jeune homme pur et intransigeant, Combeferre, philosophe et théoricien, Jean Prouvaire, érudit et poète, Bahorel, le révolutionnaire, et Joly, le malade imaginaire du groupe. Marius participe dès lors aux réunions secrètes de cette société qui se déroulent dans l'une des salles du Café Musain. Parallèlement, il poursuit ses études d'avocat et fait quelques traductions pour payer son hôtel. Mais cela ne suffit pas, et faute d'argent, il est bientôt obligé de vendre ses vêtements et sa montre. Finalement, il quitte l'hôtel et loue une chambre dans la Masure Gorbeau. Marius est devenu très pauvre. Il mène une existence très dure, faite de jours sans pain, de soirs sans chandelle, de nuits sans sommeil et d'avenir sans espérance. Malgré tout cela, 3 ans après avoir quitté son grand-père, il finit brillamment ses études et devient avocat. Il en informe son grand-père dans une lettre pleine de respect, mais très froide. Lorsqu'il reçoit la lettre, M. Gillenormand la prend en tremblant, la lit, puis la jette à la poubelle. Pour conserver son indépendance et sa liberté, Marius refuse de plaider et, pour survivre, il travaille dans une librairie. Il traduit des articles de journaux, annote des éditions et rédige des biographies. Sa seule distraction est d'aller faire de longues promenades solitaires au jardin du Luxembourg. Là, depuis plus d'un an, il observe, dans une allée déserte, un vieil homme et une jeune fille assis sur un banc. Comme les cheveux de l'homme sont très blancs, Marius l'a surnommé Monsieur Leblanc. Un jour, alors qu'il marche dans l'allée, il croise le regard de la jeune fille et est ébloui par la beauté de ses yeux bleus et de son visage. Il rentre ensuite chez lui, envahi d'une sensation étrange. Marius est amoureux. Le lendemain et les jours suivants, il met des vêtements neufs, retourne au jardin du Luxembourg et s'assoit à la même place pour observer en cachette la jeune fille qui semble, elle aussi, être tombée amoureuse de lui. Cependant, 2 semaines plus tard, M. Leblanc et sa fille disparaissent brusquement et ne reviennent plus au jardin du Luxembourg. Marius essaie de découvrir l'adresse et l'identité de la belle inconnue, mais sans succès. Triste et découragé, le jeune homme se renferme dans sa solitude.